m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Miguel Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Depuis qu'il l'a quitté à l'âge de 14 ans, quand ses parents ont fui le régime du général Zia dans les années 80, l'écrivain pakistanais Nadim Aslam, qui vit en exil à Londres, nous raconte les splendeurs et misères d'un pays qu'il a quitté. Un pays miné par le cynisme et la corruption des dirigeants et des possédants. Un pays en proie au banditisme, au terrorisme, et dans lequel les accusations de blasphème peuvent éclore sans qu'on s'y attende. Son dernier roman, empreint de lumière et de poésie, comme à son habitude, se passe en 2005. On peut en effet dater les événements qu'il relate grâce à une allusion à l'affaire des caricatures de Mahomet, publié dans plusieurs journaux danois et français. Le sang et le pardon, le cinquième roman de Nadim Aslam, traduit de l'anglais par Claude et Jean d'Emmanueli, est paru aux éditions du Seuil, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nadim Aslam.
Hello, thank you.
C'est par le personnage de Narghis que je voudrais que nous entrions avec vous dans le roman. Narghis est architecte, comme son mari Massoud, un couple instruit, cultivé, un couple qui aime la beauté, qui a des valeurs humanistes, qui aime la justice aussi. Est-ce que c'est un couple heureux?
I think they're normal in that they're happy.
On peut les qualifier de normaux.
They're happy sometimes, they are
ils sont
unhappy sometimes,
parfois but heureux, parfois ils ne le sont pas.
But I don't really think that the pursuit of happiness,
je ne pense pas que la recherche du bonheur, c'est ce qui vient d'abord à l'esprit. Ce que l'on recherche, c'est la satisfaction. C'est de ça qu'il s'agit dans un couple. Donc, satisfaits, ils le sont, oui.
Ils sont bien ensemble, mais Narghis va devenir veuve de façon extrêmement brutale, puisque son mari va mourir au cours d'une fusillade entre des tueurs et un espion américain. Et cette fusillade, eh bien, elle va tout simplement faire basculer la vie de Narghis, d'abord parce qu'elle perd l'homme qu'elle aime, mais aussi parce qu'elle va se retrouver au centre d'un enjeu qui va complètement la dépasser, un enjeu politique et géopolitique dans cette relation très compliquée entre le Pakistan et les États-Unis. Elle va être obligée, en tout cas, elle va être condamnée en quelque sorte, à être obligé d'accorder son pardon aux meurtriers américains. En quoi cet enjeu-là est si important pour les autorités pakistanaises?
That's a very good question. As I outline in the book,
c'est une très bonne question.
The incident
je décris cela dans le livre. Donc l'incident de l'espion américain qui abat en public un certain nombre de Pakistanais. Donc on l'arrête.
The American
L'administration américaine insiste sur le fait que c'est non pas un espion, mais un diplomate.
And eventually, the American government
au bout du compte,
and
le gouvernement américain et les agences de renseignement pakistanaises arrivent à un compromis. Compromis selon lequel on pardonne cet homme-là selon la loi islamique. Et cela repose sur un fait réel. Moi, je manque d'imagination. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Ces choses-là, je ne peux pas les inventer. Donc, cet incident a bel et bien eu lieu. Et aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour avoir vécu beaucoup d'évolutions qu'a connues le monde. Et le président Obama a dit que notre diplomate doit être libéré, alors qu'il savait bien qu'il s'agissait d'un espion de la CIA. Donc, je commence à voir le monde avec pas mal de scepticisme.
Et
je me dis, bon, ces gens-là nous mentent, ils répondent à leurs propres intérêts, qu'ils soient, hein, c'est ainsi qu'agissent les puissants, et c'est à cela qu'ils pensent. Donc nous, comment devons-nous mener une vie convenable, une vie épanouissante? Et je dis toujours qu'à l'époque de Trump, à l'époque du Brexit ou de Modi en Inde ou d'Erdogan en Turquie, ces personnages monstrueux
trying to address, to appeal to the basis instinct of their populace.
De faire montre de populisme en faisant appel aux bas instincts les plus vils de leurs électeurs. Eh bien, quand nous sommes confrontés à ces gens-là, nous devons insister sur notre humanité. Nous devons dire, eh bien, c'est pas en cela que nous croyons. Donc,
new agey and abstract, but I think that decency
peut sembler abstrait, un petit peu new age, si vous voulez. Mais en tout cas, il s'agit d'être plus convenable et raisonnable.
Ces choix politiques ont en effet une incidence directe sur la vie quotidienne, la vie personnelle de ce personnage de Narghis. Les pressions des services secrets vont se faire de plus en plus fortes sur elle. Et c'est justement pour faire pression qu'un militaire va s'en prendre à un livre auquel Narghis tient énormément, un livre qui s'intitule « Pour qu'ils se connaissent mutuellement », un titre tiré, vous le précisez dans le livre, d'un verset du Coran. Et ce n'est pas n'importe quel ouvrage. Il a réellement existé cet ouvrage ? Il a existé dans la réalité ou il existe dans votre tête et dans votre cœur, Nadim Aslam ?
Non, the book is made up by me.
Ce livre-là, je l'ai inventé. Il s'est tenu une exposition à Abu Dhabi il y a quelques années.
The Islamic objects and pieces of
art. Il s'agissait d'artefacts et d'objets d'art islamiques qui appartiennent au Vatican.
And that exhibition was called
et cette exposition portait le titre de ce livre, justement.
That's where I got the idea from.
C'est de là que m'est venue l'idée de cet ouvrage. Voilà donc un ouvrage assez imposant qui fait l'objet d'une mutilation dès le début du roman et par la suite les personnages réparent le livre avec des fils d'or donc ils recousent le livre. Ça nous ramène à cette idée que ce à quoi nous sommes attachés, les choses qui nous sont importantes sont endommagées par l'environnement contemporain. Et il s'agit de réparer ces dégâts.
Nous sommes page 75 de votre livre.
Un jour, alors qu'elle et sa sœur étaient encore enfants, leur oncle leur avait demandé de faire silence et d'écouter le chant d'un oiseau, les ondes sonores en provenance d'un arbre voisin éveillant sa conscience. « Ce n'est pas la force qui compte dans le monde », leur avait-il dit. Et, tenant son pouce et son index à 3 cm l'un de l'autre pour suggérer la petitesse de l'oiseau, il avait ajouté « Dieu parle à travers la plus humble de ses créatures ». Même une rose abîmée conserve un parfum. À 1h du matin, elle était toujours éveillée. À 2h aussi. Elle s'était barricadée, verrouillant soigneusement portes et fenêtres et retournant vérifier chacune d'elles à plusieurs reprises. Le haut de sa tête était sensible quand il entrait en contact avec l'oreiller. Aussi se coucha-t-elle sur le ventre, le visage tourné sur le côté. Ses joues la brûlaient, même si elle ne portait aucune marque visible. En fait, elle avait chaud, intensément, dans tout le corps. Un peu après 3h, elle alla dans la cuisine avaler avec avidité 2 verres d'eau. Les étoiles brillaient dans un ciel sans lune au-dessus du jardin. Ce désert vieux d'un milliard d'années suspendu au-dessus de la terre, comme l'avait un jour décrit le frère de Massoud. Elle retournait dans sa chambre quand quelque chose, instinct, prémonition, la fit s'engager dans le couloir qui menait au bureau. Le courant était revenu. Elle alluma la lumière. Le livre était sur la table là, où elle l'avait laissé. Mais toutes les pages avaient été mises en lambeaux. Certains fragments dépassaient de la couverture, dans tous les sens. Tandis que d'autres étaient éparpillés sur le sol.
Nadim Aslam, ce livre a vraiment une importance cruciale dans le roman. Et Narghis va entreprendre, vous le disiez il y a un instant, de le raccommoder, de le réparer, de lui rendre son état initial. Ce livre, en fait, c'est une métaphore de la sagesse.
It's a metaphor for healing.
C'est une métaphore de la guérison.
It's a Japanese art called kintsugi.
Il y a le kintsugi. Art japonais qui consiste à réparer un bol en céramique qui aura été brisé avec de l'or, non pas sous forme de fil, mais sous forme de liquide. Ainsi, le dégât tient en lui de la beauté. Et nous, pour autant que nous soyons brisés, nous allons nous accrocher à nos plaies, à notre insécurité. C'est cela que j'essaye d'exprimer. Il ne faut pas rechercher la perfection. Si l'on est brisé, eh bien cette brisure fait partie de vous. C'est tout à fait vivable, au contraire, c'est cela qu'il faut célébrer.
Et c'est donc à travers ce livre que vous avez imaginé, que vous nous faites passer ce message dans ce livre, l'idée que le manque d'éducation et de culture conduit au pire, très souvent, c'est un thème que l'on retrouve assez souvent dans votre œuvre romanesque. Il y a aussi un autre personnage dont on n'a pas encore parlé dans le livre, c'est Hélène. Hélène, elle a fait d'excellentes études. Hélène, c'est la fille des employés de maison de Narghis et Massoud. C'est une fille qui est très fine, très intelligente. Et puis, elle est chrétienne. Et on découvre à travers ce personnage d'Hélène et à travers son père qui s'appelle Lily, combien il est difficile d'être chrétien au Pakistan. Est-ce qu'on peut parler, Nadim Aslam, de persécution envers les chrétiens?
Well, this book, I'm in a strange position with this book, in that I know the precise.
Face à ce livre, je suis dans une position particulière parce que je connais exactement le moment auquel ce livre a été né, le 4 janvier
2011. The governor of Pakistan's Punjab province,
de la province de Punjab en Pakistan a été assassiné par son garde du corps. Et le gouverneur avait souhaité des lois draconiennes envers le blasphème. On peut aller à la police et dire « j'ai entendu tel ou tel personnage dire quelque chose de méchant contre Mahomet » et la police devrait donc l'arrêter. Et cette loi est détournée. C'est une forme de vendetta, si vous voulez, de règlement de compte. Donc si je n'aime pas cette ce personnage, ou si je souhaite avoir sa maison, par exemple, je n'ai qu'à le dénoncer pour blasphème, on l'arrêtera, et puis moi je m'installerai chez lui. Donc, voilà. Et donc, le gouverneur voulait changer cette loi, et cette loi est essentiellement utilisée à l'encontre des chrétiens. Mais elle est également utilisée contre les musulmans, surtout sous forme de représailles ou de règlement de compte.
And so on, I said, as a writer, the only way for me to
je me dis que la seule façon de traiter une émotion que je ressens, l'amour, le bonheur, la tristesse, la mélancolie, c'est d'aborder la question directement, parce que le matériau le plus fort du monde, c'est le papier. Mon corps, lui, pourrait bel et bien être écrasé. Je pourrais mettre cela sur du papier et tout sera exprimé sur papier. Ce fameux 4 janvier, j'ai essayé d'écrire un roman sur le traitement des chrétiens au Pakistan. Mais très rapidement, le roman a pris plus de profondeur. En effet, le 8 janvier 2011, 4 jours plus tard, après la promulgation de la loi, donc, la députée Gabrielle Griffiths,
in Tucson, Arizona,
dans l'Arizona, dans la ville de Tucson, était dans une réunion publique et elle fut abattue. C'était évidemment un opposant politique qui ne partageait pas son point de vue. Donc, d'une part, il y a eu ce phénomène dans un pays sous-développé, alors que dans l'un des pays les plus prétendument développés au monde, il se produit cette catastrophe. Quel est le rapport, me direz-vous? Eh bien, c'est ça qui est devenu le grand thème auquel j'ai voulu m'intéresser pour ce livre. Quels moyens peut-on vous donner si vous n'êtes pas d'accord avec vous? Comment pouvez-vous exprimer votre désaccord? Est-ce que vous avez le droit de sortir un couteau, un poignard? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser une arme?
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec l'écrivain pakistanais Nadim Aslam qui publie Le sang et le pardon aux éditions du Seuil. Alors cette histoire, Nadim Aslam, vous l'avez située dans une ville fictive du Pakistan que vous avez appelée Zamana, une ville fictive. Et on apprend d'ailleurs au détour d'un paragraphe du livre que Zamana, c'est aussi cette belle cité évoquée par le poète anglais John Milton dans son ouvrage Le paradis perdu. Alors vous avez vous-même, je crois, quitté le Pakistan très jeune. Est-ce que pour vous, le Pakistan, c'est une sorte de paradis perdu?
Probably was at one point.
À un moment donné, peut-être bien, oui.
When I left at
en effet, lorsque j'ai quitté le Pakistan, à l'âge de 14 ans, mon père était réfugié politique, donc nous sommes partis pensant qu'on ne reviendrait pas. Moi, je suis à l'école, puis à l'université. Et après l'université, j'ai immédiatement commencé mon travail d'écriture. Et j'étais sans le sou. Donc je pensais que je ne pourrais jamais revenir au Pakistan. Donc aujourd'hui, on peut très bien dire un billet ne coûte que 600 euros pour le Pakistan. Mais 600 euros, ça fait quand même 600 euros malgré tout pour un étudiant, enfin un jeune désargenté. À cette époque-là, je me disais qu'il y aurait certaines plantes que je ne reverrais plus. Il y aurait des oiseaux que je n'entendrais plus chanter. Ça, c'était avant l'Internet. Aujourd'hui, sur Internet, il suffit de taper le nom d'un oiseau que l'on trouve au Pakistan pour le voir. Aujourd'hui, j'ai les moyens de me payer un ticket, donc ce paradis perdu m'a été recouvré en quelque sorte. Mais je me souviens de ce sentiment de désespoir. Je suis plus conscient de ma classe dans le monde, plus que je suis conscient de ma race. Je suis quelqu'un de la classe ouvrière, je suis issu de la classe ouvrière. Donc ma solidarité s'exprime envers les gens blancs de la classe ouvrière plus qu'envers les la classe aisée et dont la peau est moins claire. Aujourd'hui, le monde est devenu très petit. Nous nous verrons à New York la semaine prochaine, puis à Sydney, puis dans quelques temps, à la fin de l'année, nous nous reverrons en Afrique du Sud. On a tendance à dire cela aujourd'hui, mais cela n'est le cas, évidemment, que pour les personnes qui ont les moyens de tenir de tels propos et de les vivre. Demandons aux gens qui font l'entretien dans ce bâtiment. Est-ce qu'ils voyagent beaucoup, ces gens-là? Il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée pour venir en Europe. Donc, paradis perdu à une époque, oui, mais paradis retrouvé pour moi. En ce sens que ça m'a permis de comprendre que j'appartiens à une certaine classe sociale, une classe ouvrière, quel que soit le lieu géographique.
Parce que le Pakistan, tel que vous le décrivez dans vos ouvrages en général et dans celui-ci en particulier, c'est plus un enfer qu'un paradis.
The challenges are huge.
Les enjeux sont immenses.
You know, I mean, at one moment in the novel,
one of the characters looks at
all the lists
parcourt toutes les dates des attentats terroristes ayant eu lieu au Pakistan. Le 26 février, il y a eu tel ou tel attentat. 200 victimes. En mars,
that same year,
la même année, tant de victimes, avril, etc. Donc, et donc le personnage parcourt la liste et dit non, je ne peux pas, je ne peux pas, parce qu'elle ne peut plus lire cette liste. Il y a 70 000 victimes au cours des 11 ou 12 dernières années en raison d'attentats terroristes.
Mais
là, ça vous donne une idée de la violence de la guerre. Mais mettons cela de côté, si l'on peut, et regardons ce qu'est le Pakistan. Le Pakistan en temps de paix. Lundi, on découvre le cadavre d'un enfant. Il a fait l'objet de viols et de violences. Le mardi, on apprend par la presse que l'un des ministres du gouvernement était responsable d'un cercle de prostitution pédophile. Le mercredi, les agences de renseignement enlèvent le journaliste qui avait écrit un article contre le gouvernement pakistanais. Le jeudi, il y a une femme qui est massacrée. Donc même en temps de paix, le Pakistan vit des événements comme cela.
To go back to the idea of asserting your decency on a day-to-day basis.
Cette notion de vivre de manière convenable, raisonnable, sans se laisser détruire par ce que l'on voit autour de soi, c'est de cela que je parle aussi.
Mais alors justement, le nom de Pakistan signifie, je crois, pays des purs. En lisant ce livre, on se dit que la recherche de la pureté se révèle pour le coup extrêmement dangereuse.
Oui, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et c'est la poursuite de ma réponse à votre question précédente. Vous dites la recherche de la pureté.
Et bien, c'est ça
qui nous donne tous ces phénomènes de Brexit et de Trump. On garde les impurs à l'écart. Il n'y a qu'une certaine forme de pureté qui est acceptée. Donc voici la destination logique de la voie sur laquelle nous sommes. Il faut le dire. Ces pays qui ont emprunté cette voie auraient intérêt à regarder le Pakistan pour voir quel en est le résultat. Le Pakistan fait partie de la même planète, évidemment. Donc l'idée n'est pas si lointaine ou bizarre que cela. Et dans toutes les sociétés, on retrouve des éléments comme ça. Comme je l'ai dit, en l'espace de 4 jours, donc il y a deux responsables politiques qui ont été tués, l'un au Pakistan, l'autre aux États-Unis.
Merci beaucoup, Nadim Aslam, d'avoir répondu à nos questions. Le sang et le pardon, votre nouveau roman, est paru, je le rappelle, aux éditions du Seuil. Une pause, le flash et le café gourmand du vendredi. Vous m'en direz des nouvelles.
m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Et cette semaine, autour de la table du Café Gourmand de VMDN, Marie Jiquel, Margot Bédé, Carmen Nunzmann et José Marigno. Bonjour à tous.
Oui. Bonjour Jean-François.
Le sommaire pour commencer. Alors, de quoi allez-vous nous parler, José?
Alors, je vais vous parler d'un retour en force d'un groupe qui cartonne et qui affole même les réseaux sociaux. Ils s'appellent les Wombats. Voilà, ils sont de retour avec un quatrième album très pop-rock.
Marie, vous revenez de Cannes et visiblement, vous avez les jetons.
Oui, j'ai les jetons puisqu'il est question pour ce Café Gourmand du Festival International des Jeux de Société qui s'est tenu la semaine dernière. Les nouveautés et l'as d'or de cette 32e édition, vous allez tout connaître. Et Jean-François, vous allez surtout savoir comment devenir un champion du Scrabble.
Ben, j'ai du chemin à faire. Aujourd'hui, Margot, vous nous emmenez, vous, au cirque?
Oui, au Cabaret Sauvage pour découvrir un spectacle qui mêle danse, comédie, hip-hop et cirque, le tout dans les années 30, en pleine période de prohibition aux États-Unis. Ce spectacle s'appelle Speakeasy et c'est une création de la compagnie The Rat Pack.
Mais pour commencer avec vous, Carmen, on va parler d'opéra, un opéra qui fait actuellement le tour de France. Opulence et légèreté, grâce et furie, tous les ingrédients du baroque sont réunis dans Rinaldo, le premier opéra italien composé à Londres par un Allemand de 26 ans, Georg Friedrich Handel. Nous écrivons l'année 1711, la mode est au castrat à l'époque, parmi eux évidemment le célèbre Farinelli, et l'Angleterre est en deuil après la mort du grand compositeur Henry Purcell. Plus de 300 ans après le triomphe londonien de cette œuvre de jeunesse d'Handel, Rinaldo est en train de conquérir la France avec une nouvelle production sur instruments anciens, et une vingtaine de représentations, Carmen, sont programmées jusqu'au mois d'août, avec l'idée que ça se passe assez loin des maisons d'opéra traditionnelles.
En effet, Jean-François, ramener l'opéra là où il n'a pas trop l'habitude d'exister, c'est le mot d'ordre de la coopérative. Quatre théâtres associés, en l'occurrence ceux de Quimper, Dunkerque, Besançon et Compiègne, qui donc défient la politique de restriction budgétaire du spectacle lyrique, très coûteux par nature, il faut le dire, pour faire vivre l'opéra partout en France. Ou enfin presque, hein, précise Loïc Bossier, à la tête de cette entreprise à vocation démocratique.
Il y a 70 scènes nationales, mais il faut au moins une salle de 800 personnes, puisqu'il y a un orchestre de plus de 20 musiciens, des chanteurs exceptionnels, des comédiens, un gros décor. On ne peut pas déployer toute cette artillerie pour seulement 500 personnes, ce ne serait pas très respectueux des deniers publics. Avec cette coopérative, on est allé jouer à Alès, Angoulême, au Mans. Là, avec ce Rinaldo, ce qui nous attend, c'est des salles pleines, voire trop pleines.
Donc l'engouement pour l'opéra semble bien réel. Alors pourquoi ce Rinaldo de Handel se prête-t-il si bien au jeu de cette coopérative?
Pour plein de raisons.
Que ce soit un opéra baroque écrit au début du XVIIIe, à l'époque où les salles n'étaient pas très grandes. C'est un opéra dans lequel il n'y a pas de chœur. La musique plus tardive appelle des orchestres souvent plus volumineux. Et puis, Rinaldo, à la création, s'était distingué par sa machinerie fantastique et qu'on a fait appel à une des grandes dames de la machine et de l'objet, Claire d'Ancoigne, qu'on est tout à fait dans l'esprit de ce qu'était la création. Chaque soir, on retrouve un peu la fièvre de ce qu'a pu être celle des Londoniens quand ils ont découvert ce spectacle en 1711.
La coopérative a donc fait appel à une novice de l'opéra qui vient d'un théâtre artisanal de masques, de machines et marionnettes, Claire d'Ancoigne.
J'étais trop contente, parce que ça reste finalement une demande prestigieuse. Bon, après je trouve ça un peu idiot que ce soit aussi prestigieux, hein, ceci dit. Comment être au service de la musique? Pour pas encombrer la musique, pour pas que la mise en scène nous saoule. C'est un immense voyage, enfin c'est un pays magique, où les dragons arrivaient, repartaient, les sirènes. Comment faire ça sur scène, finalement, à l'échelle d'un opéra? Eh ben, avec plein de poulies.
Et des poulies, il y en a au moins 200 et des kilomètres de fils capables d'animer des rangs de petits soldats marionnettes, des chars de dragons et de poissons géants, bref, tout un bestiaire fantastique. Jean-François qui bat des ailes et qui crache du feu, qu'on dirait tout droit sorti d'un tableau de Jérôme Bosch.
Et pour ce genre d'opéra à machine, comme on dit, opéra de type très en vogue au XVIIIe siècle, le livret s'inspire d'un poème italien du XVIe siècle, La Jérusalem délivrée. Donc un sujet religieux, Carmen ?
C'est une épopée au cœur des croisades, certes, sauf que dans la version de Claire d'Ancoigne, il n'est plus question de musulmans qui se convertissent au christianisme, par exemple. En fait, c'est une histoire d'amour. La belle est enlevée, le beau Rinaldo va la défendre, et tout finit bien, sans vouloir dévoiler tous les détails croustillants de cette romance sur fond de guerre, Jean-François.
Alors, qu'en est-il de la musique, Carmen ?
Alors, elle est aussi bariolée que la mise en scène, furieuse et languissante. Ça change sans arrêt, entre airs martiaux et airs amoureux. Et Handel ne se gêne pas le moindre de recycler ses propres pièces, affirme Bertrand Cuiller, qui dirige en même temps qu'il joue du clavecin, à la tête de son propre ensemble sur instrument ancien, le Caravanserail.
Ça n'a pas du tout l'air d'un collage, mais c'est une œuvre qui est apparue en 15 jours, qui regroupe beaucoup d'airs très connus qu'il avait déjà écrits avant, en fait, parce qu'il a pris par exemple L'Acha qui au Pianga, un tube qui était dans un autre opéra, L'Acha la Spina, mais il en a fait quand même une œuvre avec une cohérence et un chef-d'œuvre.
Voilà, Rinaldo, merci beaucoup pour cette belle découverte, Carmen.
Moi je joue contre vous. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous ?
Imaginez à présent que vous montez les mythiques marches du palais des festivals et des congrès de Cannes pour profiter, non pas d'un film, mais de 30 000 mètres carrés de jeux. Le Festival international des jeux de société se déroulait donc la semaine dernière à Cannes. Marie, il existe depuis plus de 30 ans maintenant. Il a attiré encore une fois des centaines de milliers de visiteurs. Vous avez donc joué le jeu, j'imagine.
Oui, et j'ai surtout rencontré des gamers, comme on les appelle. Est-ce que vous êtes un mauvais perdant, vous ?
Non, non. Par contre, dans le jeu, je joue aussi pour gagner.
Personnellement, j'ai aucun souci à perdre. Par contre, je suis un compétiteur.
Est-ce que vous êtes mauvaise joueuse ?
Oui, un peu. Non. Mais je triche un peu, donc ça va, j'arrive à gagner.
D'entrée de jeu, moquettes bleues, flashy et panneaux colorés, nous sommes plongés dans l'univers des dés, des jetons, des pions. Un marché qu'il ne faut pas minimiser, Jean-François. L'année dernière en France, 400 millions de boîtes se sont écoulées. Des ventes qui ont augmenté de 7%. Mais revenons à la case départ et à notre festival. Ici, ça joue forcément. Il faut imaginer des tablés avec des centaines de plateaux de jeux. On y teste les nouveautés avec des règles parfois très farfelues. Avec exemple avec les jeux Hamburger Party, Cortex Challenge et Shit Happens.
Donc le but du jeu, c'est de marquer le plus de points possible. Pour marquer des points, il faut réaliser le hamburger avec le plus d'ingrédients possible.
C'est la personne qui a réussi à obtenir 4 morceaux de cerveau qui gagne. Et en fait, pour pouvoir récupérer des morceaux de cerveau, il faut échanger 2 cartes avec des dos identiques contre un morceau de cerveau.
Donc Shit Happens, on va jouer avec des galères. Sur chaque carte, on a une valeur, c'est son indice de galère.
Alors c'est quoi les petites galères ?
Alors les petites galères, c'est marcher sur un Lego. Voilà, le matin, je me réveille, pof, je pose le pied sur un Lego. Aïe, ça fait mal, ça pique, mais c'est pas si violent.
Et la grosse galère ?
Pari perdu, je dois manger une banane plongée dans de la diarrhée.
Et vous, c'est quoi la plus grosse galère que vous ayez eue ?
Moi, la pire galère que j'ai eue, bah, c'est une interview radio-micro avec un micro plein de poils. Je suis à deux doigts d'éternuer.
Donc vous avez pu sentir, Jean-François, oui, une ambiance très sympathique.
Oui, ça se voit, oui. Ça s'entend plutôt.
Mais le festival ne réunit pas que les accros du plateau, c'est le rendez-vous aussi des ludothécaires, des illustrateurs et des auteurs de jeux de société comme Bruno Catala, venu présenter son jeu Imaginarium en avant-première.
Le travail de l'auteur, c'est la règle. Donc on fabrique un prototype, on fait tout un plan d'expérimentation, on fait des tests. Une fois qu'on a le jeu qui correspond à nos désirs, on en écrit la règle et là seulement, on va tenter de démarcher un éditeur. Après, le travail de l'éditeur, c'est de définir la charte graphique, d'embaucher un illustrateur et là, de mettre des images qui vont pouvoir séduire le public.
Alors Marie, il y a la tendance des jeux qui reprennent des séries télévisées comme Game of Thrones ou Breaking Bad, mais il y a aussi ce qu'il faut bien appeler de véritables institutions.
Oui, et est-ce que vous connaissez Jean-François, la star des jeux? Un indice, près de 70% des Français en possèdent.
Bah, le Scrabble, vous avez vendu la mèche.
Le Scrabble, un concours se tenait lors du festival, le concours Méditerranée qui réunissait 500 joueurs quand même.
Oui.
C'est Thierry Chinchol, champion du monde de Scrabble 2015, qui a remporté la partie. Il me l'a confié, la première épreuve avec le mot Scrabble vitamine l'avait un peu dérouté.
Je m'entraîne à peu près tous les jours, oui, grosso modo une petite heure à peu près tous les soirs.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un champion du Scrabble?
Tout d'abord être passionné par les mots, passionné par l'étymologie des mots, leur sens, et puis bon, avoir des capacités de concentration et de logique, principalement.
C'est quoi votre mot préféré alors?
Bonheur, c'est pas très original, mais bon, c'est un Scrabble en 7 lettres, c'est joli.
Alors le festival prime également chaque année un jeu lors de la fameuse cérémonie de l'As d'Or.
Oui, le trophée de l'As d'Or qui récompensait il y a 30 ans le jeu de stratégie à ballon. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, mais j'ai jamais rien compris. Jamais réussi à gagner.
Il faut juste pousser des petites billes noires ou blanches. Oui. 10 millions d'exemplaires vendus dans 30 pays depuis son As d'Or.
Ma sœur est championne.
Alors, comment sélectionner le meilleur jeu de l'année? Nadine Seul, la commissaire du festival, nous explique.
Donc on a un jury composé de 9 membres qui sont des journalistes ou des acteurs reconnus du marché du jeu. Leur métier, c'est jouer. Et donc tout au long de l'année, ils vont tester les nouveautés qui sortent sur le marché. Alors les critères du jury, il y a l'esthétique, il y a l'originalité, la qualité des règles. Il ne faut pas qu'il y ait des bugs dans ces règles. Et puis le plaisir du jeu.
Et l'As d'Or de l'année, Jean-François,
oui, suspense. Oui.
L'As d'Or de l'année a été attribué au jeu Azul. Le but, devenir le meilleur carreleur d'un palais avec des azurellos. Vous savez, ce sont ces carrelages portugais.
Oui.
Faites vos murs, faites vos jeux, tout va bien.
Voilà, une idée pour apporter un peu de chaleur au temps glacial de cette époque. Vous souffrez un tout petit peu du froid, j'ai l'impression, Marie.
Pas du tout.
32e édition du Festival International des Jeux de Société était pourtant à Cannes, dans le sud de la France, là où il est censé plutôt faire chaud. Elle s'est donc clôturée, on l'a compris, dimanche dernier. Vous avez déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine, j'imagine.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie. Oubliez les clowns et leur nez rouge, le spectacle de cirque dont nous allons parler à présent nous emmène dans un bar clandestin en compagnie d'hommes sans foi ni loi. On est en plein cœur des années 30 aux États-Unis. Speakeasy, c'est le titre de ce spectacle. Spectacle de la compagnie The Rat Pack. C'est un spectacle qui se déroule à ce moment au Cabaret Sauvage et vous êtes allé le voir, Margot.
Une fumée de cigare flotte dans la salle. Une femme fait rouler le barillet de son revolver, revolver dont on a entendu la détonation et qui sonne comme le début de ce spectacle, Jean-François. Mais qui a tiré sur le patron de la mafia ? C'est toute l'intrigue de Speakeasy. Alors Speakeasy, pour la petite histoire, c'est le nom que portaient les bars clandestins aux États-Unis pendant la prohibition dans les années 30. Alors toute l'histoire se déroule dans ce bar avec un chef de mafia, sa femme, son garde du corps, une pin-up, un barman et un bandit. Le décor classique du film de gangster est planté.
Oui, vous voulez plutôt dire du cirque de gangster?
Eh bien oui et non, parce que c'est évidemment un spectacle de cirque, il y a de la voltige, de la roussire ou encore du machinois, mais ces disciplines ne s'enchaînent pas comme des numéros, elles se fondent véritablement dans le scénario conçu comme pour un film. C'est ce que m'a expliqué Xavier Lavabre, acrobate voltigeur, il joue le patron de la mafia et il est le co-créateur du spectacle Speakeasy.
On a écrit un scénario de film parce que l'idée c'était de reprendre justement l'inspiration de Tarantino et de Martin Scorsese qui nous fascinait tous sur toute l'équipe. Et du coup on a écrit un scénario et sur ce scénario il nous fallait raconter une histoire. Donc c'est là où on a décidé de mettre le cirque au service du scénario. Vraiment à la base de la création on a cherché des disciplines déjà qui pouvaient se fondre dans le décor. On voulait pas à un moment donné arriver avec un vélo sur scène parce que voilà il y a des artistes qui sont très forts en vélo acrobatique. Donc déjà ça nous a fermé beaucoup de portes par rapport aux agrès de cirque. Et ce qui était très compliqué dans la création, c'est qu'on est tous fascinés de technique et les artistes de cirque aiment montrer leur technique. Et du coup, il fallait accepter, en tout cas dans le premier rapport, de se mettre en retrait par rapport à la technique pour laisser place au scénario et que les gens comprennent ce qu'on raconte.
Et les références cinématographiques sont donc nombreuses. Réservoir Dogs, Scarface, Les Affranchis et j'en passe. On retrouve aussi du cartoon dans ce spectacle, de Betty Boop à Jessica Rabbit en passant par Bip Bip et le Coyote. C'est très bien fait, c'est drôle. Et le clin d'œil au film va encore plus loin. Je pense notamment à cette scène de dispute, enfin même on peut le dire de bagarre, entre le patron et sa femme. Le spectateur a finalement l'illusion de tenir la télécommande de la télévision et de rembobiner la scène. Imaginez une première scène de bagarre acrobatique.
Oui.
Vous appuyez sur le bouton pause et vous remontez le temps au ralenti. Les figures sont absolument fascinantes, à condition, je le précise, d'être proche de la scène, puisqu'une partie de la chorégraphie se joue au sol. C'est le petit bémol.
Alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des dialogues dans ce spectacle qui a l'air quand même assez hors norme ?
Alors non, pas de paroles, quelques cris de temps en temps, mais surtout un dialogue des corps, un dialogue millimétré, puisqu'il y a une chorégraphie rythmée par une musique. Mais il y a aussi des silences dans ce spectacle, des silences où les comédiens acrobates sont finalement plus libres. Anne-Catherine Jorno est voltigeuse.
C'est les petits moments de respiration. C'est ces moments qui offraient des pépites. C'est ces vrais moments d'échange avec le public qui étaient trop difficiles et trop dommages à chorégraphier et qu'on laisse respirer tous les soirs. Et qui sont du coup plus ou moins courts, plus ou moins longs en fonction peut-être aussi de ce qu'on présente, de ce qu'on donne et du coup de ce qu'on reçoit.
Je peux vous assurer que mercredi soir, lors de la première, le public était réceptif. J'ai pu discuter avec Tiphaine et Isabelle, ses deux amies étaient au premier rang.
On a l'impression qu'on peut communiquer avec eux. En fait, rien que le fait aussi que ça soit muet, c'est très fort, parce que tout passe par les gestes. Moi, j'ai eu l'impression qu'on allait me cogner 2-3 fois.
C'était d'une force incroyable, parce que déjà, effectivement, on est à la proximité des acteurs, qui en plus sont des vrais acteurs, en plus d'être des gens du cirque, parce que bon, les numéros sont extraordinaires, mais en plus, il y a une mise en scène qui est vraiment exceptionnelle. On les sent transpirer, on les sent respirer, de temps en temps, ils nous titillent un peu, on le vit de l'intérieur, c'est vraiment chouette.
Oui, c'est vrai, on n'a pas vraiment envie de l'embêter, ce patron qui n'hésite pas à menacer les spectateurs. Oui. Je peux vous assurer que l'on reste à notre place.
Bon, alors, ne me cache rien, Margot, ça a l'air quand même assez éprouvant comme spectacle.
Ah ben c'est ça aussi, Jean-François, l'univers des gangsters, hein, ce n'est pas le pays des bisounours.
Effectivement.
Et les femmes ne sont pas épargnées, Anne-Catherine Jorno joue justement la femme du patron.
On se laisse bousculer. En fait, ça vient de la danse Apache. Qui est une danse qui met en scène la violence. Voilà. Donc évidemment, il faut toujours rester conscient que c'est un spectacle, que ce sont des personnages qui interprètent la violence. On n'a pas essayé de faire passer quelque chose. Je tiens à préciser parce que justement par rapport à ce moment clé féministe actuel, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une interprétation qui nous dépasse et qui est au-delà de ce que l'on voulait amener sur le plateau. On s'est inventé des caractères, des actions. C'est au service d'un scénario qui amène à un crime qui doit se résoudre et tout ça en live. Voilà, la pensée était ailleurs lors de la création.
Du divertissement pur et, il faut le dire, sublimé par une bande-son originale de l'excellent collectif français de trip-hop Chinese Man.
Compagnie The Rat Pack, c'est à découvrir donc au Cabaret Sauvage à Paris jusqu'au 9 mars, un spectacle qui sera également en tournée un peu partout en France les 23, 24 et 25 mars à Annecy en Haute-Savoie, les 3, 4 et 5 avril à Valenciennes dans le Nord ou encore les 27, 28 et 29 mars à Bourges dans le département du Cher, dans le centre de la France. Et c'est pas fini, hein, parce que vous me spécifiez tout à l'heure, Margot, que toutes les dates sont à retrouver sur la page Facebook Compagnie The Rat Pack. Merci beaucoup, Marco.
Give in and you don't give up. I'm not getting out of here this time. I brought a lemon to a
Le pop rock des Wombats, le web, vous l'avez dit, s'affole, hein, José, avec le retour en force de ce groupe anglais. 200 millions de vues au compteur, des succès à l'appel. Le trio sort donc son quatrième album, baptisé Beautiful People Will Ruin Your Life.
Oui, difficile de passer à côté des Wombats depuis leur explosion avec l'inoubliable Let's Dance to Joy Division.
Qui sonnait plutôt donc punk rock en 2007 et qui sonne plutôt électropop aujourd'hui, José.
Oui, les guitares déchaînées ont laissé place à un son plus propre, fluide et soigné. Le nouvel album est rempli d'hymnes de stade, particulièrement prenantes. Les mélodies s'harmonisent plutôt bien avec la voix fluette du chanteur Mathieu Mercier.
Visiblement, José, Mathieu Murphy a su marier habilement rock indépendant et synthétiseur dans l'air du temps depuis la formation de son groupe en 2003. C'est un peu ce qu'on appelle la loi de Murphy.
Exactement. Alors, il nous ressort une recette qui avait déjà porté ses fruits dans ses clips farfelus et ses chansons caricaturales précédentes. Joliment travaillés, les 10 titres hypertoniques sont aussi psychédéliques que délirants. Excentricité et amusement s'avèrent être la marque de fabrique des Anglais. Par exemple, il parle d'une histoire folle d'un citron envoyé par erreur à la guerre ou encore d'étranges mamies très dynamiques en cours d'aérobic.
I think kind of the Wombats.
D'un point de vue des paroles, c'est plus en fait l'idée de s'échapper de la réalité, donner aux gens un échappatoire en fait. Et parfois, effectivement, il peut y avoir le thème de l'espoir qui peut surgir, mais c'est surtout une façon de donner en tout cas comme un ticket vers ailleurs. Musicalement, en fait, justement, il y a ce côté joyeux pour contrebalancer un peu parfois les paroles. Là où quelqu'un comme Nick Cave pourrait raconter une histoire linéaire, on est plus sur une écriture justement psychédélique et avec une façon en fait moins tangible, explorer un peu plus d'autres façons de raconter des histoires en fait.
La plume décalée du trio de Liverpool n'est donc pas délaissée, histoire de dédramatiser la réalité, José.
Oui, parce que derrière leur bizarrerie surréaliste, le groupe formé dans une école d'art d'ailleurs, n'hésite pas à nous parler d'un monde souffrant d'insécurité mentale, loin des nanana et des lalala typiques des chansons yaourt. Ils utilisent des vrais mots et ne prononcent pas des sons pour ressembler à des paroles. Avec les Wombats, Liverpool semble redevenir le centre des fantasmes de la pop à texte dont raffole le public français.
En fait, moi j'ai jamais considéré qu'on était vraiment un groupe qui faisait partie de la scène de Liverpool en tant que tel, parce que ce qui peut nous différencier en fait, c'est que nous on a toujours justement parlé de choses réelles, sincères. Quand je viens en France, on me pose des questions qui sont plus profondes et qu'on ne me poserait pas par exemple si j'étais aux États-Unis. Il y a une vraie volonté d'aller dans les profondeurs quasiment philosophiques et qu'il y a quelque chose avec le public français. Par exemple, le nombre de philosophes français et anglais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus en France, donc c'est probablement aussi grâce à cet héritage qu'en France, les gens s'intéressent beaucoup plus aux paroles.
Beautiful People Will Ruin Your Life, le quatrième album des Wombats, les Anglais de Liverpool, ville bénie s'il en est par les dieux de la musique, José, puisque c'est la ville.
C'est la
Beatles.
Des Beatles,
notamment,
exactement.
Voilà, hein, qui sont donc de passage, ces Anglais, à Paris pour un concert unique à la Maroquinerie le 8 mars prochain. We'll be right back. Merci beaucoup José Marigno, merci également à Margot, Marie et Carmen. On se retrouve lundi pour une émission spéciale à l'occasion des 40 ans de la disparition du chanteur Claude François. Un autre genre, et vous m'en direz des nouvelles.